De Mao à Moïse, du chef de la gauche prolétarienne à l'étudiant de la Torah, de Pierre Victor à Benny Lévy, indubitablement, le personnage intrigue et fascine. Mais outre qu'à l'heure du people, la notoriété du personnage risque fort de remplacer la connaissance de l'œuvre, l'inquiète fascination qu'il exerce fait du surplace. Comme le remarque Benny Lévy lui-même dans son bloc-notes publié il y a quelques semaines par Libération, on lui demande des explications, on s'étonne qu'il n'en ait jamais donné, aucun aveu, aucune autocritique, alors, dit-il, que de séminaire en séminaire, de livre en livre, il n'a cessé de le faire. Alors, reprenons. Suivons pas à pas, suivons patiemment cet itinéraire, et nous verrons bien si un tel accompagnement mène à la satisfaction de notre curiosité ou à l'ébranlement de nos certitudes. Et je commencerai par le nom propre. Une fois n'est pas coutume, je tutoierai mon interlocuteur, car nous nous sommes rencontrés en 1980, au moment où s'engageait, où s'ébauchait la métamorphose, et qu'une semaine de vouvoiement est beaucoup demandée à notre respect des formes. Voici donc ma question. Comment es-tu devenu Pierre-Victor Benny Lévy ?
Première réponse simple, c'était qu'il fallait que je me cache. Et je devais me cacher parce que je n'étais pas français. Et ça dit déjà la chose importante concernant le mouvement de monde, de pensée. J'étais, et j'espère je suis encore, fondamentalement un apatride. Ça, c'est quelque chose qui m'a protégé. Je ne l'ai su que bien plus tard. J'ai souffert, évidemment, de la chose, et j'ai su bien plus tard que c'est ce qui m'a protégé. Hélas, ça avait un contre-effet, c'est que je n'avais pas mon nom propre. Quand, arrivé en Europe, je me suis tout de suite engagé totalement, absolument, dans la politique, alors il a fallu que j'aie des pseudonymes. Devenu, disons, le responsable principal du groupe qui s'appelait la gauche prolétarienne, on a commencé, pour une raison que j'ignore, à m'appeler... D'abord, je crois que je m'appelais Jean, et puis c'est devenu Pierre. Comme vous voyez, tous les apôtres y sont passés. Et après, c'est un méchant petit livre d'une journaliste sans importance qui m'a, de son propre chef, appelé Victor. Et donc, c'est devenu Pierre Victor. Voilà pour l'origine du pseudonyme, mais le fond de l'affaire, c'est que toute cette première phase de mon histoire, elle est dans le cachet. Elle est dans le cachet, ça c'est la phase vraie, et dans le pseudo, ça c'est la phase fausse. Il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire il y avait quelque chose de vrai dans l'immense violence que je portais en moi et qui m'a amené à la révolution, ce qu'on appelait tel, en tout cas ces formes radicales d'action que j'ai eues à ce moment-là. Il y a quelque chose de vrai, c'est simplement que m'était insupportable toute idée d'intégration à ce contexte où je me trouvais. En même temps, je désirais ardemment, puissamment l'intégration. J'ai tout fait pour m'assimiler. On m'a dit qu'il fallait faire l'école normale supérieure, donc j'ai fait l'école normale supérieure pour m'assimiler. À la différence de toi, Alain, il n'y a pas lieu en moi d'une dette. Il faut jamais cracher dans le puits où on a bu. Donc, c'est sûr que j'ai eu des joies et je suis reconnaissant à certaines figures, etc. Mais je ne me sens pas en dette par rapport à l'école laïque française pour la bonne raison que, quelque part, j'ai forcé les portes. Je n'ai pas été accueilli comme toi, tu décris la chose. Pas été accueilli. J'ai donc, ce qui fait que, d'accord, j'ai été élève de l'école normale supérieure, on me dit ça, j'ai toujours encore un peu l'impression que c'est de quelqu'un d'autre qu'on parle.
Toujours. Oui, mais cette violence dont tu dis que tu la portais en toi, est-ce qu'elle vient du fait que tu as eu le sentiment de ne pas être accueilli, ou est-elle antérieure? Et si elle est antérieure, où l'enracines-tu?
Oui, elle est antérieure incontestablement, parce que je... impossible que je dise que je n'ai pas été accueilli. Enfin, à l'école, pour prendre cet exemple, Althusser a été quelqu'un qui m'a accueilli admirablement. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu parler après contre lui, alors que j'aurais pu le faire, par reconnaissance. Et au fond, tout le monde. J'ai été, quand j'étais au lycée, que je n'avais pas d'argent pour mener les études, tout le monde m'a aidé. Donc vraiment, de ce point de vue-là, je n'ai que reconnaissance à afficher. Ou bien, par rapport aux institutions juives, à Rothschild, par exemple, j'ai eu des bourses. Ça m'a pas empêché de jeter un cocktail Molotov. Après, enfin, pas moi directement, mais mes militants à Rothschild, à l'époque, imbéciles, où on jetait ces cocktails Molotov. Mais, donc, maintenant, je peux le dire clairement, quoi. Il n'y a pas... Donc, cette violence, elle est, comme tu dis, antérieure. Elle est constituante. Et il me semble que j'ai dit qu'il y a récemment, et je pense que ça vaut le coup de reprendre la formule, que... j'étais un terroriste intellectuel. Les gens se trompent, ils ont, pour des raisons qui tiennent à la génération, ils ont intérêt à me présenter comme un stalinien. Ce qui est assez non pertinent. Tout le monde sait, tous ceux qui ont vécu auprès de moi pendant ces années ont un souvenir d'une liberté de pensée, d'une possibilité de pensée neuve qu'ils avaient à mon contact, et pas du tout ce que le stalinisme produit, à savoir une constriction. C'est pas ça. Mais je suppose que ce qui est visé en vérité dans cette accusation, c'est précisément ce terrorisme-là. Alors ma chance, et qui tient à mon avis à ma judaïcité profonde, ma chance, c'est que ce terrorisme est resté en moi intellectuel. C'est profondément...
Il n'y a pas eu de passage à l'acte.
Non seulement il n'y avait pas de passage à l'acte, mais disons, la satisfaction que peut apporter la violence, elle était plénière quand elle était dans le langage. Ce qui a fait de moi un homme de parole redoutable, évidemment. Il y a pas de, comme dit Sartre, le génie, c'est toujours trouver une solution dans les situations désespérées. Donc il y avait quelque chose de désespéré pour moi dans cette violence-là. La solution que j'ai trouvée, c'est faire de mon terrorisme intérieur un langage.
Oui, mais alors, ce n'est pas...
D'où le malentendu avec ma génération, parce qu'eux m'ont élu chef pour des raisons qui tiennent à leur propre rapport à la violence, qui n'était pas du tout la mienne.
Qui n'était pas la tienne. Ce n'est donc pas par hasard, si je comprends bien, que tu as choisi le maoïsme, puisque dans l'éventail des possibilités qu'offrait l'idée révolutionnaire à cette époque, le maoïsme se caractérisait par le mot, par l'expression, car c'était un maoïsme largement imaginaire, de révolution culturelle, c'est-à-dire une révolution qui allait jusqu'au bout de la table rase, pour laquelle il ne s'agissait pas, je dis cela en reprenant les mots de Mandelstam, d'accomplir la splendide promesse faite aux tiers états, la promesse de culture pour tous, mais beaucoup plus loin d'en finir avec une culture jugée oppressive. Donc c'était il y a une cohérence, il y a une logique dans ce choix là du maoïsme pour toi.
Oui. Ce maoïsme imaginaire, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il n'a sans doute que très loin à voir avec ce qu'a été l'effectivité de la tyrannie en Chine. Ce maoïsme imaginaire, c'est le maoïsme de la décision en 16 points. Je me souviens encore, en 66, c'était comment on lisait, on était en Bretagne, sur la plage, on lisait, venait de parvenir cette décision, la décision qui a déclenché donc la lutte contre le quartier général, qui est le début de la révolution culturelle, cette décision est un texte saisissant, parce que Mao Tse-Tung nous disait il y a une possibilité de s'attaquer au concept de moi, non seulement à la culture, mais au concept de moi. Alors, évidemment, il faudrait avoir un petit peu l'ascèse qui consiste à oublier les images de Angkor au Cambodge, ce qu'on sait des camps en Chine, etc., pour revenir à, si j'ose dire, la fraîcheur de notre errance, de mon errance, peu importe. Il y a une fraîcheur là-dedans, si j'ose dire. C'est tout simplement que j'entendais quelque chose qui résonnait très très fort en moi. cette manière de casser la culture environnante pour essayer de faire apparaître le plus profond de l'homme, expression de Mao Tse-tung dans la décision en 16 points, c'est quelque chose de tout à fait étourdissant. Si, disons, on laisse le flashback et on en vient à une proposition rationnelle sur ces résonances que j'entendais alors, et je dirais, quelque part, cette radicalité a dû, intellectuellement, je ne parle pas du fond de mon être, mais intellectuellement, dans les formulations intellectuelles, a dû m'aider à m'approcher de la vraie figure, de la figure vraie du casseur d'idoles. J'ai nommé Abraham.
Bien, alors, avant d'en venir à cette mutation, à ce retour ou à ce retournement, je voudrais, pour mieux comprendre cette violence qui était en toi, Benny Lévy, et ce que tu entendais dans la déclaration en 16 points de Mao Tse-tung, parler quelques secondes d'un autre étourdissement, d'un autre éblouissement, celui de Lévinas, auquel nous consacrerons une conversation prochaine, lorsque lui est arrivé en France. Il le dit à la fin de Difficile Liberté, il quitte l'Ukraine, après la Révolution russe, il arrive à Strasbourg, où enseignaient Charles Blondel, Alvax, Pradine Carteron et plus tard Guéroux, amitié de Maurice Blanchot, et à travers les maîtres qui avaient été adolescents lors de l'affaire Dreyfus, vision pour un nouveau venu éblouissante d'un peuple qui égale l'humanité et d'une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et le cœur aussi fartement que par des racines. Voyez cet éblouissement-là, alors d'où vient que toi, parti d'Égypte, obligé de sortir d'Égypte, si je puis dire, comme Lévinas a été contraint de quitter la Russie et l'Ukraine, ton éblouissement a été celui-là. Ce que tu entendais de la pensée de Mao Tse-tung, et d'où vient qu'il n'ait pas été possible pour toi d'être ébloui comme l'a été Lévinas. Ce
n'est pas tout à fait exact. L'éblouissement a eu lieu pour moi. Il a un nom, Sartre. La langue française, pour moi, c'était Sartre. Quand je parle de langue, je parle de la seule chose qui soit importante dans une nation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se fiche complètement de la langue française. Parce que sans doute cette nation elle-même est en train de perdre sa conscience d'elle-même. Mais moi, je voulais m'intégrer à cette langue, je voulais habiter cette langue. Et ça signifiait, non pas être sartrien, que Dieu ne plaise, mais ça signifiait être avec Sartre. Je parle d'une époque, j'avais 15 ans, bien antérieure à mon travail effectif après avec Sartre. Et donc je peux reconnaître le point commun avec le texte de Lévinas sous ce nom, Sartre. Mais précisément, c'est un nom exclusif.
Ah oui.
Quand Lévinas arrive, il prend tout.
Ah oui, c'est pas. Oui, effectivement, les noms l'ouvrent
oui.
sur la France.
Oui, il vous parle de gens. Je me demande moi-même, ayant connu un peu l'ironie de Lévinas, s'il n'a pas exagéré dans la mention de ces noms. Mais ce qui est vrai, en tout cas, même s'il y a une exagération, c'est que ce qui l'intéressait, c'était tout. C'était le tout de la culture, ou ce qu'il appellera plus tard le tout de ce qui allait s'annoncer comme la grande littérature nationale propre à la France. Le tout de la langue française. C'est ça qui l'intéressait. Alors que moi, par le nom propre de Sartre, je cassais en deux la langue française. Lévinas était donc respectueux, et moi j'étais violent. Parce que pour casser, il faut être violent, et pour être respectueux, il faut prendre tout. Donc, quelque chose d'ailleurs de très significatif dans l'écriture de Lévinas, dans son mouvement de pensée. Même quand il lui arrive de casser, je pense qu'on aura à parler de ce point, même quand il lui arrive de casser à Lévinas, il finira par revenir avec un mouvement d'enveloppement 20 ans plus tard, pour reprendre les débris de ce qu'il a cassé.
Ah oui, c'est une très bonne analyse de son mouvement de pensée et même peut-être de son style. Il faut reconnaître aussi que c'est un très grand écrivain de la philosophie, peut-être le plus grand écrivain de la philosophie, et donc il a fait ce cadeau-là aussi, je ne sais pas si c'est pour payer sa dette, à la langue française. Et dans ses entretiens avec François Poirier, il parle de la manière dont il a appris le français. Vous saviez le français en arrivant à Strasbourg, lui demande François Poirier. Très peu, très peu. Comment avez-vous fait? Et il y a cette réponse admirable. Ah, les langues ne sont jamais un obstacle.
Voilà, et ça aussi, c'est un grand point de différence. Moi, j'ai mis tellement d'efforts, j'ai tellement souffert pour arriver à habiter la langue française, que je suis incapable de connaître quelque autre langue que ce soit. Oui. J'ai fait toutes les études d'anglais jusqu'à la cagne compris. Je ne sais pas dire deux mots en anglais à l'heure actuelle. Et comme si une langue m'accapare complètement.
Mais quand tu dis
je ne peux pas en avoir deux en même temps.
Quand tu dis, Béni Lévy, que tu as souffert pour habiter le français, c'est tout de même ta langue natale.
Et...
Justement, je voulais savoir jusqu'à quel point ta langue maternelle, si je puis dire.
Oui, c'est la langue que je parlais avec ma mère. Seulement, ma mère elle-même parlait un français qui était truffé de l'arabe syrien. Et dès l'âge de 3 ans, j'étais dans la maison des grands-parents. Et là, ma grand-mère et mon grand-père ne parlaient pas français.
Ils parlaient ?
Ils parlaient l'arabe, cet arabe syrien-là, dont je comprends aujourd'hui juste ce qui me reste des formulations de ma mère. Quoi.
Et à l'époque, tu le parlais couramment ? Tu parlais l'arabe et le français ?
Il me semble. Je crois que ma mère me dit que oui.
Tu as quitté l'Égypte à quel âge ?
11 ans. Donc...
Donc, c'est pas tout à fait ta langue maternelle, effectivement.
Si vous voulez, la meilleure formule, c'est celle que Derrida a eue, il faut bien le dire.
Le monolinguisme de l'autre.
Voilà, il a déclaré « j'ai une seule langue et c'est pas la mienne ».
Voilà, c'est ça.
Alors, cette idée-là, moi, je la compléterais, si vous voulez. Enfin, il n'y a rien à compléter à Derrida. Derrida a dit ce qu'il a dit, mais je veux dire, si je le reprends à mon compte, moi, ce que je compléterais, c'est la chose suivante. Je dirais que dire que c'est la seule langue que j'ai et qui n'est pas la mienne, ça signifie que je ne peux avoir que... une attitude de ralliement total. Donc, personne ne peut venir déranger mon occupation, si j'ose dire. Je dois être voué à cette langue. La seule chose qui était autorisée, c'était de me vouer à une langue morte. Donc j'ai, alors avec une passion totalement délirante, fait du grec, du grec, du grec, du grec, du grec. J'apprenais des pages de vocabulaire grec.
Oui.
Et bien, pareil. Quand est arrivée la vraie langue paternelle, que le grec ne faisait que remplacer, à savoir l'hébreu, j'ai pratiquement oublié le grec. Il ne peut pas y avoir deux... Ça peut pas... Cette espèce d'asile, de grande auberge, qui est la tête de Lévinas par rapport à l'allemand, le russe, les différentes grandes littératures nationales européennes, mais complètement étrangères.
Oui.
Mais il y en a beaucoup comme ça chez nous, là-bas en Israël. Beaucoup de gens qui connaissent 7-8 langues. J'en ai demandé à un, je lui ai demandé, mais tu penses en quelle langue? Il m'a regardé, il ne comprenait pas ma question.
Oui.
Il disait, dans la langue que je parle, je pense au moment où je parle.
On ne peut pas dire tout à fait la même chose de Lévinas, mais on en viendra maintenant tout de suite à l'amorce du retour, parce que quand il finit cette phrase commencée ainsi, les langues ne sont jamais un obstacle. La première année, je lisais du Corneille, édition avec des notes en consultant sans cesse un dictionnaire, et aussi, je me souviens, un roman de George Sand. Voilà comment il a appris le français, et il habitait le français. Donc, ce n'est pas le polyglotte qui manipule les langues. Il n'y a pas d'extériorité non plus, c'est ça. C'est ça qui rend sa trajectoire peut-être si singulière. Mais... Alors, un mot aussi sur Sartre. Tu n'étais pas sartrien, mais tu as accompagné Sartre jusqu'au bout de sa vie intellectuelle. Je t'ai connu à ce moment-là. Je t'ai soutenu au moment des difficultés que tu as eues avec les sartriens.
Difficultés est un mot pudique.
Oui. Mais quand Sartre a lui-même voulu publier un extrait de vos entretiens qui devait former un volume Pouvoir et Liberté. Et l'une des raisons de mon soutien, c'est que j'ai compris et senti que tu ne laissais pas tomber Sartre. Tu m'as dit un jour, justement, dans ces moments-là, qu'il y avait une petite flamme en lui et que tu veillais à l'entretenir. Et cet homme voulait penser. Bon, il était très fatigué. Les sartriens avaient quasiment déjà fait leur deuil. Pas toi. Et ça, je trouve que accompagner comme tu l'as fait le vieux Sartre, c'est un mouvement magnifique. Et puis aussi, je me souviens de ce qu'on disait de Sartre en 68. Nous étions spontanément, moi j'étais hypocagneux, donc à la fois condescendant et conformiste, c'était un peu ça, blanc-bec. Et donc j'avais appris un peu à me moquer de Sartre, pas tout à fait moi, parce que je l'aimais. J'avais aimé Réflexions sur la question juive, Baudelaire, que j'avais lu à 14-15 ans, enfin disons plutôt 15. Et donc, je sentais que j'avais à me défendre. Il n'était pas un père pour nous. Les pères, c'était les structuralistes, c'était un grand-père. Et donc, il y avait quelque chose aussi d'original et de singulier dans cette volonté de penser avec Sartre à un moment où la pensée avait pour mission de s'émanciper du subjectivisme, de la phénoménologie, etc. Bien, et c'est, alors, je ferme cette parenthèse, parce que c'est avec Sartre, en pensant avec lui, que précisément, semble-t-il, s'est amorcé ce retour où nous allons venir. C'est-à-dire que tu l'as connu à un moment où il était là pour protéger la gauche prolétarienne, et puis vous vous êtes ensemble, vous avez commencé à réfléchir aux impasses de l'idée révolutionnaire.
En t'écoutant, je me suis dit que Sartre était non pas un père pour moi, mais un frère aîné. Bon, ceux qui connaissent ma vie personnelle comprendront peut-être certaines résonances de la chose. Maintenant, un deuxième point s'est imposé quand tu me rappelles cette histoire-là. Ce qui me touche au plus profond, et ça concerne la vérité, c'est de voir un homme lutter contre ses intérêts idéologiques. C'est pour moi quelque chose de vital. Je veux être sûr qu'un homme peut lutter contre ses intérêts idéologiques. Donc jamais ne m'a intéressé Simone de Beauvoir, pétrifiée dès sa jeunesse par son rapport à Sartre, Aragon, enfin tout ça m'intéresse pas du tout. Mais voir quelqu'un qui était capable, comme il disait, de se remettre au fond de son fauteuil et de redevenir cogito, donc cogito, c'est-à-dire à la fois un nourrisson et un homme adulte, c'était le grand problème de la fin de la vie de Sartre. Comment un cogito pourrait être celui d'un nourrisson? Et bon, ça c'est la limite absolue de toute philosophie de la conscience. Mais cette manière de tout rejouer, c'est ça qui me donne confiance dans l'intellectualité. Parce que je ne suis pas un homme de culture, je ne suis pas un homme d'acquisition, je ne suis pas un homme qui puisse à un certain moment dire « voilà, telle est mon idée ». Alors, si je ne trouve pas chez les grands, et pour moi le seul grand c'était Sartre, ça n'a pas du tout compté les structuralistes, mais pas du tout. Je les connais grâce à mon ami Jean-Claude Milner 20 ans après, c'est tout. Pas du tout, mais avant, pas du tout.
Encore une fois, les maîtres à penser. Donc il faut bien redire
qu'en
68, Sartre n'était plus un maître. Sartre a peut-être étouffé l'intelligentsia dans les années 50. En 68, la situation était tout à fait différente. Il était doublé sur sa gauche et il n'était plus considéré comme un maître à penser.
C'est vrai, d'ailleurs, même pour moi, il n'avait plus de vigueur pendant ces années. Mais pas parce que j'étais structuraliste, pas parce que Deleuze ou Foucault m'intéressaient plus. Ils ne m'ont jamais intéressé plus, même si j'ai eu un très très bon rapport avec Foucault et que je lis ses cours maintenant avec passion, mais je les lis justement avec un très grand intérêt, sans plus. Il n'a pas compté pour la vérité, pour moi. Sartre a compté. Et il a compté quand j'avais 15 ans pour la raison que j'ai dite, mais il l'a compté quand il était vieux, en tant qu'il était vieux.
En tant qu'il était vieux.
J'étais contre la je ne sais pas si les gens se souviennent de cette formule horrible, nihiliste en diable, qui avait été celle du mouvement des jeunes lycéens. Nous ne sommes pas contre les vieux, mais contre ceux qui les font vieillir.
Ah oui.
C'est affreux.
Oui. Non,
alors il ne faut pas s'étonner après de voir la situation des mouroirs.
Alors, pas simplement des mouroirs. Ce qui est tout à fait saisissant aujourd'hui, c'est que la vieillesse comme telle est un objet de dérision.
Oui.
Dans cette époque qui se flatte d'être antiraciste, qui se flatte de sa tolérance et de son ouverture, il est tout à fait légitime de rire de quelqu'un parce qu'il est vieux. Du pape parce qu'il est vieux. De l'ancien président Giscard d'Estaing parce qu'il est vieux. Des hommes politiques français parce qu'ils sont trop vieux. La vieillesse peut être un délit de faciès, quoi. C'est tout à fait saisissant aujourd'hui. Alors c'est peut-être en effet l'aboutissement d'une formule 68 art, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Et Sartre était derrière nous, et tu t'es retourné d'une certaine manière.
Mais le vieux...
C'était déjà un retournement.
Mais le vieux Sartre me fait comprendre le vieux Platon.
Alors bon, c'est de cette double compréhension que nous allons parler demain. Merci et à demain.